Eh bien, je vais faire un portrait de cet Honoré de Balzac. Portrait contrasté. Alors, c'est un prodigieux créateur, on l'a dit, une imagination débordante. C'est 2000 visages, en fait, qui incarne dans ses personnages lui-même, et multiples, en quelque sorte. Et donc, même les descriptions physiques de l'époque sont contradictoires. Donc, par contre, il est un géant, il a une puissance de travail débordante, une œuvre immense, gigantesque. On peut peut-être le comparer à Hugo pour ça, quoi. Mais il est petite taille, hein. Apparemment, il est de tous conviennent, il a une taille médiocre, alors, je ne sais pas, peut-être 1m60 pour l'époque, hein. Les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui. Donc, en fait, il est tourangeau, dit-on, mais il est aussi, bien que tourangeau, eh bien, Touraine, donc il est sanguin. Son père, rappelons-le, ou on peut le signaler, avait habité Tours, mais était originaire d'Albi. Donc il a un côté sanguin, un côté faconde, méridional, un sens de la démesure. Et dans les portraits qui en sont faits, par exemple, il y a une sculpture de David d'Angers, du sculpteur David d'Angers, hein, comme la ville, qu'il montre grave et froid. Hein, ce qui n'était pas apparemment, mais enfin, il l'a vu comme ça, le sculpteur. Il y a aussi une peinture de Louis Boulanger, donc au musée de Tours, où on le voit là gras, sanguin, et on le voit, on le devine exubérant, pétulant. Et puis un dessin d'un dessinateur ou d'un caricaturiste, Deveria, le montre au contraire maigre et le visage osseux. Donc c'est qu'il impressionne différemment ses interlocuteurs. Vous savez, à l'époque, on parlait de physiognomonie ou de phrénologie. Alors, c'est-à-dire que les traits du visage, notamment, dans cette science, ou qui n'est pas une science exacte, ou, eh bien, révélaient le caractère, hein, la mentalité, comme l'écriture, pour le graphologue, révèle aussi le caractère. Alors, c'est le front haut, par exemple, qui révèle l'intelligence, enfin. Et Balzac était adepte, hein, notamment de cette science, de cette discipline, enfin, pour ses personnages, pour les descriptions de ses personnages. Donc, il est les mémorialistes, alors ceux qui l'ont portraituré par leur écrit. Par exemple, Alfred de Vigny décrit un jeune homme maigre. Alors le peintre de la Croix le décrit comme svelte. Donc un autre caricaturiste, Henri Monnier, lui donne de l'embonpoint, un embonpoint très apparent, voilà, dès sa jeunesse. Voilà. Lamartine le décrit gros, épais, carré par la base et les épaules, mais nulle lourdeur, hein, dans son allure. Il est vif, hein, dans son allure. On l'a dit, c'est un travailleur acharné, donc il passe ses nuits, il se nourrit de café, donc il s'épuise, hein. Pour ça, peut-être qu'il est mort à 50 ans. Ouais. Et puis, il a un côté orgueilleux, mais en fait, là aussi, c'est contrasté. Ça, on est dans le portrait moral, quoi. Orgueilleux, en fait, il a conscience de sa valeur. Il a un côté, il n'est pas vaniteux, pas sautement vaniteux. Surtout, il n'a pas de morgue. Et puis, il est chaleureux. Hein, c'est un bon compagnon, voilà. Alors, toujours dans l'aspect physique, mais qui peut rejoindre le moral aussi, puisque on parle aussi de son tempérament. Donc, description de Théophile Gautier, un contemporain, donc ce sont des contemporains bien sûr, col d'athlète ou de taureau, rond comme un tronçon de colonne, trapu, robuste, vivace. Il évoque pour Gautier le sanglier ou le taureau, donc c'est un homme qui fonce, qui est une force de la nature. Voilà. Et d'autres observateurs, alors beaucoup d'observateurs, non, c'est de cette apparence de Balzac que cette vision superficielle, donc on va dire les gens du monde distingués ou qui se croient tels, ils ne croient voir en lui ou ne voir en lui que l'aspect vulgaire, voir le ridicule, voir le côté insupportable. Alors par exemple un certain comte Apony Y, dans ses mémoires qui sont apparemment un tissu de médiocrité, de petits détails, hein, sans grandeur, mais il décrit notre Honoré comme un gros bonhomme de tournure et de figure commune. Voilà. Et puis, une autre personnalité de l'époque, la duchesse de Dinault, qui doit se rattacher, plutôt de la duchesse d'Abrantès, qui fut aussi son amante. Alors, la duchesse qui était de la noblesse impériale, du Premier Empire. Et donc, cette duchesse de Dinault le voit déplaisant, elle le voit à la figure, au ton et au sentiment, désagréable, peu sympathique, sans verve ni facilité dans la conversation, et très lourd, elle le voit lourd, mais ce sont des observateurs à courte vue. Ouais. Alors un autre, par exemple, évoque ses manies, ses ridicules, sa laideur, sa saleté, ses cheveux hirsutes, mais poudrés ou parfumés, avec des senteurs, ses habits mal brossés, mais arrosés de senteurs. Voilà. Et puis un certain Fontenay, qui est un petit poète, un mini poète, de calendrier, quoi. Et il le voit comme un gros garçon, à la tournure d'herboriste, à la mise de boucher et à l'air de d'horreur. Donc on voit un homme vraiment du peuple, dans son esprit, c'est pas la grande classe. Toutefois, il ajoute dans un éclair de lucidité, mais l'ensemble est prestigieux. Donc, par contre, il y a des observateurs plus fins et sensibles qui détectent à travers l'apparence la valeur, la grandeur de l'homme, son électricité qui traverse, qui dégage, sa sensibilité, ses tourments, sa complexité, sa finesse derrière l'apparence de force de la nature. Par exemple, c'est une baronne de Pommerel qui le décrit ainsi à l'époque des chants, des chouans. De l'écriture du roman, les chouans. Alors, elle écrit « bien vilain chapeau ». Donc, il avait un bien vilain chapeau. Mais aussitôt qu'il se découvrit, tout le reste s'effaça, tous les défauts apparents. Je ne regardais plus que sa tête. Vous ne pouvez pas comprendre ce front et ces yeux-là, vous qui ne les avez pas vus. Un grand front où il y avait comme un reflet de lampe et des yeux bleus, des yeux plutôt bruns, remplis d'or, qui expriment tout avec autant d'honnêteté que la parole. Voilà. Donc, elle détecte, elle, fine psychologue, la qualité, la grandeur de l'homme. Voilà. Et d'autres également, qui transcendent, qui voient l'âme et le génie, l'intelligence qui transcende la laideur apparente. On parle de Dieu magnétique, voilà. Et alors George Sand, on la recite puisqu'elle décrit aussi son camarade. Ils étaient camarades apparemment en littérature. Elle décrit Balzac ne dépensait que de la folie, à la différence de d'autres qu'elle évoque précédemment, qui donnent tout dans leurs paroles, qui donnent tout ce qu'ils ont, le peu de talent qu'ils ont. Il ne jetait que son trop-plein et garder le reste, l'essentiel, la sagesse, sa substance, il l'a gardé pour lui, il l'a gardé pour son œuvre. Voilà, c'est une vision très lucide d'Honoré de Balzac. Donc nous allons faire là une petite intermède. Alors là, on va passer sur un intermède musical. Voilà, une scène musicale. Alors ça sera des musiques d'aide de l'époque. Alors je ne sais plus dans quel ordre, mais ça sera donne bien l'ambiance. Et puis Balzac et ses confrères de l'époque, comme vous pouvez entendre ça, il allait au concert, bien sûr. Donc on a le Berlioz, il y aura Berlioz, un extrait. Et puis des nuits d'été, les nuits d'été, je trouve que ça convient bien à l'ambiance. Voilà. Donc quelques gouttes de musique du grand Berlioz, et nous retrouvons notre Honoré de Balzac.